Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat. C'est vrai qu'il y a des fois des personnes, c'est des questions de caractère, hein, donc on ne peut pas forcément grand-chose là contre. Il y a des caractères qui sont marqués peut-être beaucoup plus par l'inquiétude que d'autres. Alors j'invite ceux parmi nous qui font partie des inquiets, bienvenue au club, j'en fais aussi partie, à lire peut-être davantage les promesses de Dieu sur « ne vous souciez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu », etc., etc. Et puis vraiment à prendre ces promesses et à chercher à les vivre aussi dans notre vie et à ne pas nous inquiéter de ce qui revient à Dieu. L'inquiétude peut donc nous abattre, mais une bonne parole peut nous réjouir. Est-ce que nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu que Dieu peut utiliser pour réjouir nos frères et sœurs? Vous avez jamais pensé à la sortie d'un culte d'aller remercier quelqu'un qui s'est exprimé pour la première fois ou qui a donné pour la première fois un message? N'avez-vous jamais pensé, les plus jeunes parmi nous, de dire merci à votre maman pour ceci ou pour cela? N'avez-vous jamais pensé à faire un compliment une fois à un frère, à une sœur pour l'invitation que vous avez eue? Vous savez, probablement nous sommes trop avares de bonnes paroles, de paroles qui peuvent faire du bien à nos frères et sœurs. Oh, on ne cherche pas ici à être hypocrite et puis à lécher les bottes ou bien à caresser dans le sens du poil, comme on dit. On cherche simplement à être un instrument que Dieu peut utiliser aussi pour encourager nos frères et sœurs. On a vécu une expérience très intéressante. Nous avons l'habitude en Suisse de nous retrouver entre jeunes chrétiens des assemblées étroites et larges, et oui, ça arrive. Nous avons l'habitude de nous retrouver à Morges avec toute une série de jeunes le lundi soir pour faire une partie de foot entre 7h et 21h. Et puis, pendant des années, on avait quelques anciens footballeurs de nos assemblées qui étaient un petit peu grinches, dirons-nous, qui avaient l'habitude d'être très secs et puis qui, dès qu'un jeune faisait une erreur, râlaient sur les personnes qui ne jouaient pas très bien. Et puis ces deux, trois personnes, l'âge étant là, ne viennent plus désormais le lundi soir et puis a fait place à d'autres jeunes qui viennent, et puis un état d'esprit totalement nouveau qui voit le jour dans ces parties de foot, où on est plusieurs anciens, où on s'est dit, il faut qu'on change l'état d'esprit qu'il y a eu pendant des années, ça ne va pas, il faut qu'on fasse autre chose, parce qu'on est entre chrétiens, on ne peut pas tout le temps s'invectiver et s'envoyer les pires horreurs à la tête, c'est que du foot, et bien on va essayer plutôt d'être encourageant. Alors, les quelques plus anciens qui participent à ça, on s'est dit, les jeunes, chaque fois qu'ils vont réussir une bonne passe, on va essayer de les encourager, de leur faire des compliments. Et il y a un état d'esprit maintenant, tous ces lundis soirs, où l'on peut jouer au foot, qui est totalement différent, parce qu'on cherche à encourager. Vous savez, quand vous jouez pour la première fois dans une équipe de foot, on vous met défenseur central, vous jouez face à des gros bras, vous n'avez pas forcément l'habitude. C'est vrai que si, lorsque le premier ballon que vous touchez, vous réussissez à faire une bonne passe et à faire bon usage de ce ballon, et puis que vous recevez un encouragement, vous prenez confiance pour la suite du match. Est-ce que ce n'est pas la même chose dans la vie chrétienne? Essayons que nos assemblées, que nos familles ressemblent plutôt à des équipes de foot qui s'encouragent plutôt qu'à des équipes qui passent leur temps à s'invectiver, à se renvoyer ceci, cela, mais tu te rappelles, la dernière fois, c'était en plus toi qui nous avais causé un autogol, ceci, cela. Et puis, c'est vrai que le climat est tellement important pour que notre foi puisse se développer. Alors une bonne parole peut nous réjouir. Je dirais encore, je lirai simplement, Proverbe 17, verset 22, « Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Bien matériel et bien spirituel, je propose que nous lisions Proverbe 30, verset 8 et 9. « Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. » Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié, et que je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel, et de peur que je ne sois appauvri, et que je ne dérobe, et que je ne parjure le nom de mon Dieu. Mais le plus grand danger, de mon point de vue, qui guette aujourd'hui les chrétiens occidentaux que nous sommes, c'est le matérialisme. C'est Satan. Je le disais à quelques frères, Satan, il a toujours plus d'expérience maintenant, depuis le temps. Et puis, il sait toujours mieux comment nous avoir. Et c'est vrai que les attaques de Satan sont toujours, en tout cas dans le monde occidental, elles sont toujours plus pernicieuses. Et le matérialisme est un des plus grands dangers qui guette le chrétien en pays développé. Alors, ayons à cœur de vivre ce proverbe « Ne me donne ni pauvreté ni richesse ». Cherchons simplement à vivre. Est-ce que la richesse est une motivation pour chacun d'entre nous pour se lever le matin? J'ai dit qu'avant, les hommes pouvaient mettre en place des choses absolument incroyables pour chercher à gagner de l'argent. Est-ce que c'est ça qui dirige nos vies? La recherche est l'appât du gain. Je crois qu'il faut qu'on soit des fois honnête avec nous-mêmes. Je crois que chacun d'entre nous, lorsqu'on peut le voir de temps en temps, lorsqu'on passe un petit temps pour réfléchir à ce qu'est notre vie, à ce qui nous motive, eh bien on se rend compte que peut-être des fois, on est bien assez motivé par l'appât du gain. Alors la parole de Dieu nous invite à ne pas rechercher à être riche, ni à être pauvre. Parce que si on cherche à être riche, après on va peut-être s'amasser une certaine fortune, on va peut-être s'amasser un certain nombre de choses, et puis après on va arriver au stade où on croit que tout cela nous est dû à nos forces, à nos capacités, et puis on va poser cette question, qui est l'Éternel? L'Éternel ne sera plus personne pour nous. On aura eu trop de confiance en nous-mêmes, et voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à ne pas rechercher la richesse, ni même la pauvreté. On le voit peut-être moins dans nos pays, mais on sait que dans certains pays plus pauvres, eh bien, le grand danger pour les chrétiens qui sont pauvres, eh bien, c'est de chercher à quand même avoir quelque chose, et lorsque l'on n'a pas, eh bien, on cherche à dérober à l'autre. Donc, ne recherchons ni la pauvreté, ni la richesse. Soyons du parti de ceux qui veulent le juste milieu. Et pour terminer, au sujet des bonnes et mauvaises paroles. Proverbe 12, verset 18. Il y a tel homme qui dit légèrement ce qui perce comme une épée, mais la langue des sages est santé. Qui dit légèrement ce qui perce comme une épée. Ouh là là, quand je pense à certaines de mes déclarations ou à certaines de mes paroles vis-à-vis de tel et tel frère ou de telle et telle sœur, ou dans le cadre familial, lorsque ça s'était parfois gâté, les paroles percent. Et on peut dire des fois bien légèrement des choses qui font extrêmement mal aux gens qui sont en face de nous. Et des fois, sans même s'en rendre compte. Je vous invite, lorsque vous vous rendez compte que votre parole a pu blesser votre frère ou votre sœur, eh bien, à chercher à demander pardon. Lorsque vous vous rendez compte, et vous savez, Dieu nous travaille, on se rappelle très bien parfois de telles paroles, de telles situations, et puis cette situation nous revient de temps en temps en tête, et puis on cherche à l'évacuer. Eh bien, au contraire, lorsqu'on se rend compte qu'on était trop loin dans certaines déclarations, dans certaines paroles, dans notre univers familial, dans notre environnement d'assemblée, dans notre environnement de travail même peut-être, sachons le reconnaître et demander pardon. Nous avons besoin de davantage vivre le pardon. Nous avons besoin, dans nos familles, dans nos églises, dans nos assemblées, de nous demander mutuellement pardon lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a beaucoup trop d'assemblées qui souffrent encore et toujours d'une bringue vieille de 20, 30, 40 ans que certains frères et sœurs n'ont toujours pas réglée et qui avaient peut-être à la base une parole qui a dérapé, et puis après on a construit toute une forteresse là autour, les positions se sont rigidifiées, et ceci est ressenti de manière, non plus seulement par les deux personnes qui peut-être se sont invectivées, mais par l'ensemble de l'assemblée, voire même des familles, et c'est tellement dommage. Attention à nos paroles, et lorsque nos paroles blessent et que nous nous en rendons compte, sachons demander pardon et le confesser. Par contre, nous l'avons lu, la langue des sages est santé. La langue des sages est santé. Eh bien, elle peut faire du bien, la langue des sages, à nos frères et sœurs. Je terminerai par le proverbe 15 au verset 1er. Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. En rentrant sur l'autoroute il y a quelque temps, j'étais un petit peu distrait, et puis alors j'ai vraiment, sans me rendre compte du tout, la route qui a la voiture qui arrivait sur la gauche, et vraiment sans m'en rendre compte. Et puis, au feu rouge suivant, la personne qui était dans cette voiture est sortie en claquant la porte, en tapant contre ma voiture, espèce de cinglé, encore je dis avec des mots plus aimables, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire, on aurait pu y passer, on était à 100 à l'heure, vous êtes complètement fou. » Et puis j'ai écouté. Puis je lui dis, ouais, vous avez raison, j'ai fait une grosse erreur. Ça vous arrive jamais, vous, de faire des erreurs? Plus rien. Alors, c'est vrai que plutôt que des fois de s'exciter mutuellement, eh bien, Dieu peut nous donner peut-être parfois de pouvoir donner une réponse qui est douce, où on admet son erreur, et puis on pose la question à l'autre, bah écoute, ça t'est jamais arrivé, toi aussi, de couper la route à quelqu'un. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver tellement facilement, on est un petit peu distrait. Eh bien, sachons avoir des réponses douces qui peuvent détourner la fureur et tout de suite calmer les choses. Et rappelons-nous que la parole blessante, on vient de le voir aussi, excite la colère. Voilà donc quelques thèmes transversaux des proverbes que j'avais à cœur de vous partager. Alors, j'ai plutôt choisi quelques perles plutôt que la quantité pour pouvoir aussi les expliquer, donner des exemples concrets de ce que ça pouvait être dans nos vies. Mais vous avez sur vos petits carnets, vous avez chaque fois les références des nombreuses autres occurrences où les thèmes que nous avons développés ensemble sont situé dans les proverbes.
Voilà, donc je disais donc 5 thèmes pratiques pour lesquels à chaque fois on va faire un petit survol, on va prendre 5 exemples de versets qui les abordent, et à commencer par la vie conjugale. Bon, il faut dire qu'avec Nathanaël, on s'est battu pour avoir cette partie, hein, étant donné qu'on est 2 experts sur la question. Voilà, donc je vais simplement essayer de ne pas dire trop de bêtises. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ce sujet dans les proverbes. J'en ai relevé 5. La femme gracieuse, Proverbe 11, verset 16, obtient l'honneur et les hommes forts obtiennent la richesse. J'ai trouvé que c'était vraiment dans le registre du constat, hein, de ce qu'on peut constater, un beau tableau de ce qu'on recherche dans la société, les critères qui impressionnent un homme fort, costaud, une femme belle, ça c'est ce qui frappe l'œil. Hein. Donc ça n'a pas changé, vous voyez, depuis cette époque-là, c'est toujours ce qui frappe. Les standards de masculinité, de féminité. Par contre, les 2 versets suivants, on va un petit peu remettre les choses à leur place, sous un angle un peu plus spirituel, on va dire. Ce qui attire dans un homme, c'est sa bonté. Et puis, pour une femme, la grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Là, on peut dire que c'est des critères spirituels ou moraux, de beauté, hein, en tout cas d'attirance. Alors, c'est important de souligner ces choses. Hein. Ce qui attire dans un homme, c'est sa bonté. Voilà, c'est ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est la grandeur de son cœur. Hein, c'est pas la grandeur de ses muscles ou de son porte-monnaie, c'est la grandeur de son cœur. Et pour une femme, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà, c'est le fait qu'elle recherche vraiment à plaire à Dieu, plutôt qu'éventuellement à plaire aux gens par son apparence. Donc, certainement avec l'idée que c'est des choses qui vont durer. C'est des choses d'autant plus importantes et valables qu'elles ne vont pas vieillir, ces choses-là. Au contraire, elles vont se bonifier avec l'âge. J'ai entendu dire qu'un couple tient à 20 ans par le corps, à 40 ans par l'âme et à 60 ans par l'esprit. Alors, dans une société où la durée de vie s'allonge, eh bien, il faut plutôt s'intéresser au pôle de l'âme et de l'esprit pour que quelque chose soit solide dans une relation. Ensuite, Proverbe 5, versets 3 à 6, « Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. » Alors, je pense que c'est un verset important à souligner, il s'agit de l'étrangère. Il y a beaucoup de versets qui parlent aussi de la prostituée dans le livre des Proverbes, ici c'est l'étrangère. Donc toujours dans l'idée, bien sûr, les Israélites, il fallait se marier au sein du peuple de Dieu. Et on peut le transposer sans difficulté à l'Église aujourd'hui, au cercle des croyants, puisque dans la deuxième épître aux Corinthiens, on a ce verset de Corinthiens 6, verset 14, qui nous dit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incrédules ». Donc, on comprend bien qu'un mariage entre un chrétien et un non-chrétien, au fil des années, risque de souffrir, parce que les personnes ne sont pas basées sur les mêmes valeurs, hein, les mêmes systèmes de pensée, n'ont pas les mêmes objectifs. Alors je ne veux pas non plus caricaturer et dire que tous les non-chrétiens sont des gens abominables, mais enfin, il faut aller quand même au fond des choses. Un chrétien a une conception de l'amour qui est inspirée de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'amour c'est quoi? C'est se donner. Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Ça c'est une notion de l'amour que tout le monde n'a pas dans la société aujourd'hui. Et si l'amour est basé sur l'attirance, sur une certaine forme d'entente, voire même sur la séduction, la compétition, la... Bon, eh bien, c'est dangereux tout ça, ce petit jeu-là. Alors qu'un amour sacrifice, un amour où chacun recherche avant tout l'intérêt de l'autre et est prêt à donner sa vie pour l'autre, ça c'est quelque chose de beaucoup plus fort. On voyait comme quoi il est important d'être fondé sur Jésus-Christ. Ça change la manière de voir la vie et donc dans un couple c'est important que les deux aient ce fondement. Ensuite un autre verset, chapitre 5 verset 18. « Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. » Alors, vous voyez, ceux qui pensent que la Bible estime que l'amour conjugal c'est quelque chose de secondaire, voire même de méprisable ou même de sale, eh bien ils en sont pour leur compte, hein. Ils peuvent repasser. Donc la Bible ne néglige pas du tout l'importance de l'amour humain, mais au passage, elle prêche la fidélité. Puisqu'il s'agit de cultiver ses sentiments dans la durée et donc dans la stabilité et la fidélité. Voilà donc pour la vie conjugale.